Et dans le grand entretien d'Inter ce matin avec Marion Lourd, nous recevons un député élu Rassemblement National de la Somme. Il est numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour messieurs dames.
Bonjour.
Dans quelques minutes, vous pourrez dialoguer, échanger avec les auditeurs d'Inter qui peuvent vous appeler et vous interpeller au 01 45 24 7000 ou tout simplement sur l'application France Inter. On a beaucoup de dossiers à aborder avec vous. L'actualité est riche. La campagne pour les élections européennes vient de commencer. Trois mois, c'est long, c'est court aussi. Et on va commencer malgré tout par une question de géopolitique. Emmanuel Macron, le président de la République, recevait les chefs de parti, dont le vôtre, Jordan Bardella, jeudi, pour parler de l'aide à apporter à l'Ukraine. La thèse d'Emmanuel Macron, je le cite, c'est que face à un ennemi qui ne met aucune limite, nous ne pouvons pas nous permettre d'en formuler. Je ferme les guillemets. Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette phrase, qu'on comprenne bien votre position aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien?
Mais ce qui nous a inquiété, d'ailleurs plus que gêné, et pas seulement nous. Moi, j'ai été attentif à toutes les réactions des forces politiques qui ont été reçues. Et sur ce sujet-là, elles sont quasiment unanimes, de la gauche jusqu'au Rassemblement National. C'est l'envoi de troupes au sol, déclaration qui a inquiété grandement une large majorité de Français, si j'en crois les sondages, qui a inquiété l'ensemble de nos alliés, aussi bien au sein de l'Union européenne qu'au sein de l'OTAN, tant et si bien que la plupart des dirigeants de ces pays ont dû recadrer publiquement Monsieur Macron. Monsieur Macron a été
c'est
même
plus le cas aujourd'hui.
Recadré
hier,
par
la
ses
Pologne
propres
a soutenu
services.
Le président de la République, les pays baltes également.
Sur une autre formulation, et donc Monsieur Macron ensuite a dû revoir ses déclarations. J'ai aussi entendu Monsieur Lecornu hier, qui lui-même a fait des déclarations bien différentes, où on revenait en fait à un soutien logistique et à un soutien de formation de l'armée ukrainienne, et c'est sur ces déclarations.
Il n'a jamais été question de troupes combattantes au sol. Hein,
écoutez, moi je veux bien qu'on réécrive ce qu'a dit Monsieur Macron. Il a tout au moins une ambiguïté lors de ses déclarations, puisqu'il avait un ton extrêmement martial. Il n'a pas absolument pas précisé lors de cette déclaration, lorsque c'était une conférence de presse assez longue, qu'il voulait se limiter à la formation de troupes ou l'envoi de services logistiques. On voit bien, au mieux, il était pour l'intérêt du monde, de la paix dans le monde, il était dans la provocation du débat national. C'est ce que vos confrères de l'opinion ont révélé, c'est qu'ils voulaient visiblement démasquer le Rassemblement National et les autres forces politiques, dire qui, soi-disant, était dans la caricature et qui était dans la caricature. C'est lui. Or, sur des décisions aussi importantes, sur des déclarations aussi importantes que la guerre ou la paix, je ne conçois pas qu'un président de la République puisse être dans la politique politicienne, et c'est quand même assez grave. Et d'ailleurs, je pense que même ses soutiens au sein de la majorité, je l'ai vu au Parlement, n'étaient pas très fiers des déclarations de M. Macron.
Alors, ça s'appelle l'ambiguïté stratégique. En tout cas, l'Élysée appelle ça comme ça. Le fait de ne pas dire qu'on a des forces au sol, mais qu'elles ne sont pas combattantes, c'est aussi une façon, peut-être, de peser sur Vladimir Poutine. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait?
Mais, madame, moi, ça, j'entends ce que vous me dites. C'est effectivement les propos de M. Lecornu hier. Vous n'avez pas eu de réaction négative aux propos du ministre de la Défense, qui était dans ce que vous dites, dans la position que vous indiquez, mais sans ouvrir des perspectives martiales, des perspectives d'entrée en guerre de la France avec des troupes au sol qui ont inquiété, une fois encore, tout le pays. Donc, moi, je veux bien qu'on refuse que M. Macron fasse des erreurs, que tout ce que dise M. Macron est toujours parfait. Moi, je pense que M. Macron a commis une erreur, qu'il a voulu entrer en campagne politique de la pire des façons possibles et qu'il s'est fait recadrer aussi bien en interne qu'à l'extérieur par l'ensemble de nos alliés, par toutes les forces politiques françaises. Et tant mieux, puisque je crois qu'il n'y a pas de Français aujourd'hui qui veulent partir en guerre en Ukraine.
Alors, on a du mal quand même, Jean-Philippe Tanguy, à comprendre votre position, la position du RN vis-à-vis de la Russie, parce que, par exemple, pour le premier débat télé des européennes, jeudi prochain, votre président Jordan Bardella envisage de se faire représenter par l'eurodéputé Thierry Mariani. Thierry Mariani, en 2019, épinglé par la DGSI comme un relais d'influence de Moscou. C'est quoi le message là?
Non mais, il y a deux choses totalement différentes. La première chose, notre position sur l'Ukraine, la position du Rassemblement National depuis le premier jour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, elle est très claire. Nous voulons la victoire militaire de l'Ukraine, nous voulons que le droit international soit rétabli, à savoir la préservation des frontières telles qu'elles sont reconnues par l'ensemble des pays du monde, que l'Ukraine récupère ses frontières et ses territoires, et qu'on restaure un climat de paix, évidemment, et de dialogue sur notre continent qui ne soit pas géré par la Chine, la Turquie ou d'autres pays.
Et comment ?
Et nous soutenons l'effort de guerre ukrainien par l'ensemble des aides que la France a versées pour le moment, par
donc
les prêts
vous allez voter celles qui vont être présentées.
On va en reparler, j'imagine, par les prêts qui ont été faits à l'Ukraine, par un soutien matériel, tant qu'il ne s'agit
prochaine.
Pas de matériel militaire lourd qui permettrait d'attaquer le territoire russe et d'entrer dans un engrenage que nous ne voulons pas. Et en fait, M. Macron ne supporte pas que notre position sur le sujet ukrainien soit en fait quasiment la même que la sienne. Il veut s'inventer un personnage de leader très courageux qui ne l'est pas. Voilà, donc tout ça est assez fallacieux. Sur le fait que M. Mariani soit envoyé au débat politique, M. Mariani est député européen, M. Mariani est un de nos plus brillants orateurs, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas assurer ce débat.
Et en 2018, il allait dans le Donbass superviser une élection jugée illégale par la communauté internationale, qui était organisée par la Russie pour annexer cette région, clairement.
Il n'a pas, à cette occasion, soutenu les positions de la Russie.
Non, il supervisait une élection
différentes.
Qui était jugée illégale.
C'est pas le seul parlementaire occidental et européen qui allait superviser ces élections.
Certes, mais il l'a
fait. Oui, mais on peut être en accord, on peut être en désaccord. Ce n'est pas pour ça que ça en fait un pro-russe. M. Mariani a toujours eu ses positions. Il s'en est expliqué devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sous serment. Vous remarquerez que les déclarations qu'il a faites n'ont jamais été contestées pour mensonge, puisque vous savez que devant ces déclarations, devant cette commission d'enquête parlementaire, pardon, on ne peut pas mentir. Aucun membre de cette commission d'enquête parlementaire de la majorité ou de la NUPES a contesté les propos qu'a tenus M. Mariani. Donc en fait, on est en permanence autour de M. Mariani ou autour du Rassemblement National dans la diffamation, dans la propagation de fake news sur les ingérences étrangères. Sur les ingérences étrangères, excusez-moi, il y a eu deux poursuites aujourd'hui qui sont engagées suite à la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences et concernent M. Bountan, ancien parlementaire macroniste sur la Chine, et M. Julien Laferrère, parlementaire NUPES, ancien macroniste. Voilà, il n'y a aucune poursuite judiciaire suite à cette commission d'enquête qui rassemblait toutes les forces politiques contre des membres du Rassemblement national.
C'est pas la même chose. On peut être un relais d'influence sans être dans quelque chose de répréhensible pénalement.
Mais si vous êtes un relais d'influence, il y a des dispositions aujourd'hui du Code pénal qui permettent de vous mettre en cause et rien ne permet de nous mettre en cause. Je rappelle aussi que nous avons auditionné la DGSI lors de cette commission d'enquête. Elle n'a pas mis en cause M. Mariani.
En revanche, le président de la République, lui, a dit très clairement que la Russie s'était ingérée dans sa campagne présidentielle de 2017 et il disait qu'il y avait un risque d'ingérence russe campagne des Européennes
absolument.
En France.
Il y a eu une tentative d'ingérence russe en 2017 par la propagation d'un certain nombre de fake news, mais je le rappelle aussi qu'à cette époque, M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, avait classé ainsi les candidats qui avaient sa préférence pour le régime russe et l'ordre était M. Fillon, M. Macron et il n'y avait pas Mme Le Pen dans ce duo de tête.
D'un mot, Jean-Philippe Tanguy, la Suède est le 30e pays membre de l'OTAN, c'est fait. Vous leur dites bienvenue aux Suédois, bienvenue dans l'Alliance Atlantique.
Oui, nous avons soutenu le fait que la Suède puisse rentrer dans l'OTAN.
On va retourner maintenant au Standard. Bonjour Laurent et bienvenue sur Inter, vous nous appelez de Marseille.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, parfaitement, oui, et vous aviez une question sur la politique étrangère justement.
Laurent, oui, de Marseille, bonjour. Je vais essayer de ne pas être long. Une question et une réflexion. Réflexion vis-à-vis de France Inter, tout simplement, avant de démarrer, et ne me coupez pas, ça fait 40 ans que j'écoute la radio, mon père écoutait aussi, je trouve que la gestion du conflit israélo-palestinien par France Inter est très partisane, voire un petit peu limite propagande pro-palestinienne. Il y a des moments où on oublie qu'Israël, c'est la pointe avancée de l'Occident.
Écoutez, nous faisons tout pour ne pas être partiaux et...
Non, voilà, je suis un peu déçu. Et je voudrais que vous ne me coupiez pas parce que ça me fait beaucoup de peine.
On a entendu ce que vous vouliez nous dire.
Dernier mot, c'est la pointe avancée de l'Occident, Israël, et elle lutte contre de l'obscurantisme comme nous le faisons au quotidien. Et je trouve que tous les jours, j'ai l'impression d'être sur une chaîne partisane pro-palestinienne, ça me gêne. Sinon,
bon,
question.
En tout cas, mais c'est votre jugement et on ne va pas le contester, on ne va pas en débattre. Mais la question à Jean-Philippe Tanguy.
Ça me fait beaucoup de peine pour la radio que j'écoute, une chaîne privée.
Alors, votre question, Laurent.
Question, monsieur. Justement, sur le conflit israélo-palestinien, parce qu'on a beaucoup parlé d'Ukraine et tout, et à juste titre, je n'arrive pas à avoir une vision claire de leur positionnement dans ce conflit. Je les trouve assez discrets, on n'entend rien. Donc, où en est-il aujourd'hui, monsieur Tanguy, sur ce conflit-là? Parce que quand le Hamas a fait ces monstruosités, tout le monde s'est un peu réveillé, hors, bien sûr, les insoumis. Et après, on n'entend plus parler. Alors, qu'est-ce que pourrait nous donner le RN, qui sont sur un positionnement pas pro-israélien, mais qui soutiennent et comprennent même les dérives d'Israël dans leur lutte, ou est-ce qu'ils sont, comme la majorité des gens qu'on entend, pro-palestiniens, aveuglés, sans raison et sans discernement? Voilà,
Jean-Philippe Tanguy va vous répondre, Laurent.
Notre position, elle est très claire, elle est réaffirmée de façon constante. Nous sommes pour le droit à Israël de se défendre dans ce conflit. Israël a été attaqué de la pire des façons possibles par un mouvement terroriste qu'il convient d'éliminer du territoire. Et malheureusement, la guerre est une réalité terrible. Et c'est le Hamas qui prend son peuple en otage et qui, je le rappelle, garde encore des personnes innocentes sous son joug. Donc Israël mène sa défense comme elle le peut, de la moins pire des façons possibles. Évidemment, c'est une démocratie et il y aura les enquêtes nécessaires s'il y a eu des crimes de guerre ou s'il y a eu des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais Israël, rappelons-le, est une démocratie qui se défend. Quand la France a été attaquée par des attentats, personne n'est venu nous demander des comptes sur ce que nous avons fait en Irak contre l'État islamique.
Est-ce que vous pensez que la France devrait déplacer son ambassade et la transférer de Tel Aviv à Jérusalem?
Non, nous pensons, nous sommes dans la ligne traditionnelle française telle qu'elle avait déjà été établie par le général de Gaulle, puis François Mitterrand et Jacques Chirac. Nous maintenons l'espérance d'avoir un jour deux États et nous voulons maintenir l'ambassade là où elle est aujourd'hui.
Jean-Philippe Tanguy, on le disait, la campagne des élections européennes a commencé. Vous avez une tête de liste, votre président, Jordan Bardella. Il n'a pas vraiment de bilan à défendre à Bruxelles. Pas plus d'une vingtaine d'amendements déposés en 5 ans. 650e député sur 705 concernant sa présence dans l'hémicycle parlementaire européen. C'est pas un handicap, ça, pour faire campagne ?
Non, pas du tout. Vous avez un autre classement où Jordan Bardella est le député le plus influent du Parlement européen. C'est-à-dire, quand vous êtes parlementaire...
Le classement de qui ?
C'est le classement du Parlement. Il y a une influence au sein du Parlement et il y a une influence en dehors du Parlement par rapport à votre rôle de parlementaire. Alors, Monsieur Bardella, comme leader de l'opposition à cette construction européenne, a alerté sur l'ensemble des grands sujets qui aujourd'hui sont au cœur du débat. Et je pense que sans lui, son travail parlementaire, les Français ne seraient pas au courant. Sur le pacte des migrations, sur les dérives du pacte vert, sur les dérives de la loi qui est très mal nommée restauration de la nature. Autant de sujets qui aujourd'hui, sur lesquels les européistes font machine arrière et donnent raison au Rassemblement National. C'est ça le rôle d'un parlementaire. C'est pas de déposer des amendements pour déposer des amendements. Il est très étrange, je dis aussi comme parlementaire français.
Quand
vous êtes en désaccord, un amendement, comme il le dit très bien, c'est pour nuancer une loi. Quand vous êtes en désaccord avec la totale, avec une politique européenne, vous ne déposez pas d'amendement, vous ne votez pas les lois qui vous sont proposées. C'est un peu comme au Parlement français. Je me souviens, on avait jugé à l'aune du nombre d'amendements la position sur les retraites. Écoutez, ce n'est pas parce que vous déposez 6 000 amendements que vous vous opposez à une réforme des retraites. Vous vous y opposez, vous votez contre, point. Voilà. Donc c'est vraiment drôle, enfin ironique, à quel point le droit d'amendement est devenu le juge d'une action parlementaire. Ça n'avait jamais été le cas avant une période très récente.
Ça montre un travail parlementaire,
non,
en tout cas.
C'est de l'agitation. Non, je suis désolé. Déposer, surtout maintenant que c'est fait avec des instruments informatiques, déposer des centaines ou des milliers d'amendements ne dit absolument rien de votre travail.
Vous faites partie d'un groupe au niveau européen qui s'appelle IDE,
oui.
Qui est un assemblage avec différentes droites extrêmes européennes. Ce groupe, il a un cordon sanitaire, ça veut dire que personne ne travaille avec vous, ça veut dire que vous ne ferez pas d'alliance avec d'autres partis. Est-ce que vous allez rester au sein de ce groupe? Ça veut dire, est-ce que vous allez être condamné à rester dans l'opposition?
Mais ça, nous verrons. Vous savez, il y avait un cordon sanitaire avant autour du Rassemblement National. Il a largement sauté parce qu'on fait des politiques avec des réalités. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de mal se comporter avec des eurodéputés qui sont élus par les peuples, avec les listes qui étaient en tête dans deux pays importants comme l'Italie et la France. Je crois que ce sera fini. Moi, je me souviens très bien comment on parlait de Madame Meloni qui était présentée.
Elle n'est pas dans votre groupe.
Non, mais d'accord. Meloni. Oui, mais avant qu'elle gagne les élections et qu'elle ait le pouvoir qu'elle a en Italie, qui était présentée, on avait inventé le terme post-fasciste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Madame Meloni n'est pas mon amie. Et puis maintenant. Elle est associée à toutes les décisions dans l'Union européenne. Oui. Deuxièmement, on n'a pas spécialement envie d'être associée à la co-gestion de l'Union européenne telle qu'elle se fait depuis 50 ans, contre laquelle on est. Donc, vous savez, le cordon sanitaire...
Vous avez envie d'être associée à des Bulgares qui disent que les Juifs sont des invités dans leur pays? Vous avez envie d'être associée, par exemple, à des Italiens qui disent que les juges russes et les médecins russes vont juger si la Russie est responsable de la mort de Navalny? Vous avez envie de rester avec ces gens dans ce groupe ID?
Les Bulgares, je ne... Je ne crois pas qu'ils vont rester dans ce groupe pour ce qui est des déclarations italiennes. Elles sont un peu plus compliquées que cela. Et le gouvernement italien est un fervent soutien de l'Ukraine. Je finis quand même ce que je voulais dire. Moi, le cordon sanitaire, vous savez, moi, j'aimerais bien qu'on le mette autour de ceux qui ont ruiné l'Europe, hein, qui ont fait que depuis 20 ans, l'Union européenne a une croissance structurellement déficitaire par rapport aux États-Unis, que la richesse par habitant en Union européenne s'est effondrée, que en 1992, toutes les régions de France étaient plus riches, du PS, des socialistes, des républicains et de la Macronie, parfois des Verts, qui s'allient depuis 50 ans pour ruiner l'Europe et la France. Les résultats de l'Union européenne sont catastrophiques dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine industriel, dans le domaine de la défense, on le voit, où nos industries sont incapables de soutenir l'effort ukrainien et de combattre une puissance comme la Russie. Elles sont catastrophiques en agriculture, elles sont catastrophiques dans le domaine de la santé, où nous sommes dépendants sur l'ensemble des molécules les plus importantes pour soigner les habitants de l'Europe. Donc on voit bien que cette co-gestion des européistes, nous, c'est nous qui voulons mettre un cordon sanitaire contre eux, puisqu'ils ont échoué sur tout, et j'ai absolument pas envie d'être associé à ces gens.
Hier, il y avait une cérémonie officielle, place Vendôme, Jean-Philippe Tanguy, l'interruption volontaire de grossesse s'était scellée dans la Constitution, dans le texte fondamental. Et à ce moment-là, vous, par exemple, vous soutenez l'inscription de l'IVG dans la Constitution, contrairement à un certain nombre de députés RN, au moment même où quasiment votre parti présente aux élections européennes et en position éligible un homme dont le nom n'est pas connu du grand public, c'est Alexandre Varot, qui est farouchement opposé à l'IVG. Il a eu cette phrase, je le cite, « Il n'y a qu'un pas du diagnostic prénatal à l'eugénisme, de la fission de l'atome à Hiroshima ». Comment est-ce que vous pouvez concilier les deux positions et que pensez-vous de cette déclaration qui fait froid dans le dos ?
C'est une déclaration, évidemment, que je ne partage pas à titre personnel. Monsieur Varot a changé sur l'IVG. Il soutient la loi telle qu'elle est aujourd'hui en France. Et par définition, s'il rejoint notre liste et qu'il n'est pas en désaccord...
Il est passé de l'eugénisme au soutien de la loi.
Il n'est pas en désaccord avec le fait que nous ayons voté la constitution de l'IVG. Je vous rappelle qu'il y a seulement 11 parlementaires RN sur 91 qui ont voté contre la constitutionnalisation, alors qu'il y a 50 parlementaires LR qui ont voté contre, et c'est d'ailleurs leur droit. Et je réponds très tranquillement à votre question, monsieur Varot, comme tous les opposants ou les anciens opposants à l'IVG, ne sont pas essentialisables sur leur seule position. Il a des qualités éminentes, c'est un grand juriste, c'est un grand avocat. Il a par exemple défendu les communes victimes de l'Erika, il a défendu les familles des victimes du drame de Brétigny, il a été président du Conseil de l'Ordre des Avocats. Il faut aussi que dans notre pays, et moi qui ai toujours milité pour le droit à l'accès à l'IVG, j'ai toujours milité pour d'autres acquis sociétaux comme le mariage pour tous, on doit respecter ceux qui ont des opinions différentes, tant que ce n'est pas l'appel à la haine, évidemment, à la violence, à des moyens qui ne sont pas légitimes dans le débat démocratique. Il faut aussi arrêter de vouloir exclure du débat démocratique des personnes qui ont des opinions minoritaires. On a le droit de ne pas être d'accord avec la majorité sans être accusé de tous les maux. On a le droit d'avoir des convictions religieuses qui vont contre la très très grande majorité des Français. C'est le sens d'une démocratie aussi, monsieur Badou, je sais que vous le savez, c'est que on doit respecter les opinions minoritaires sans les diaboliser. Or, je ne dis pas c'est ce que vous dites du tout.
C'est assez étrange comme formulation, Jean-Philippe Tanguy.
Il y a une partie aujourd'hui de la gauche qui semble mépriser toute personne qui n'ont pas leur avis sur l'IVG ou d'autres questions sociétales.
Parlons de vous, et en l'occurrence la question de l'IVG, votre candidate à l'élection présidentielle, je vais y arriver, disait elle-même que c'était une question absolument déterminante. Là, on a l'impression que vous relativisez finalement le discours d'Alexandre Varot.
Je vous ai dit que j'étais en désaccord, monsieur Badou, avec cette position. Je vous dis que monsieur Varot, pour figurer sur d'autres listes, avait assuré qu'il soutenait le droit à l'IVG tel qu'il existait aujourd'hui en France. Je vous dis juste qu'on ne peut pas essentialiser les gens et les réduire à une seule position, même si vous êtes en désaccord avec cette position.
Votre oratrice Hélène Laporte, qui s'est exprimée pendant le congrès, elle a dit « Ainsi, la lettre constitutionnelle laisse au législateur le soin de trancher la question si lourde de conséquences du délai ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ERN au pouvoir pourrait remettre en cause le délai légal de 14 semaines pour faire pratiquer un IVG ?
On s'est opposé à ces 14 semaines, on était pour rester sur 12 semaines. Je vous rappelle que M. Macron lui-même n'était pas pour porter le délai à 12 à 14 semaines. Ça ne l'a pas empêché de soutenir.
Vous restez sur cette position-là ?
Oui, moi je pense que c'était mieux à 12 semaines. Pourquoi ? Mais attendez, il faut une réponse complète. Nous étions contre l'extension de ce délai parce que dans l'essentiel des cas, c'est parce qu'il est aujourd'hui difficile d'avoir accès à l'IVG pour des raisons médicales et qu'il y a un tiers de nos départements qui sont un désert gynécologique. Vous avez un grand problème d'accès à la prévention, un grand problème d'accès à la médecine pour les femmes. Les femmes, en particulier les mères de famille, sont celles qui sacrifient le plus leur santé, leur accès à la santé, du fait de leur charge mentale et des contraintes qui s'imposent à elles. Et si vous voulez, élargir le délai, non parce que c'est une demande des femmes, mais parce qu'on a des problèmes dans le système de santé, ce n'est pas acceptable, je ne crois pas que ce soit une grande avancée, c'est au contraire un recul de l'accès à la santé pour les femmes.
Hier, le président de la République a salué la mémoire de grandes figures du féminisme, il est allé fleurir les tombes de Simone Veil, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, il a bien fait ?
Mais on peut honorer ces personnes.
Moi, Gisèle Halimi ?
J'ai un désaccord avec Gisèle Halimi, non pas sur son engagement féministe, mais sur le rôle qu'elle a eu sur la guerre en Algérie, où elle a défendu des intérêts opposés à la France et participé, enfin soutenu des mouvements qui ont assassiné et tué des Français. Donc évidemment, je ne peux pas mettre sur un même plan Madame Halimi et les deux autres femmes qui sont admirables.
Emmanuel Macron n'aurait pas dû aller fleurir sa tombe.
Mais si, mais moi, je peux comprendre qu'on rende hommage à quelqu'un sans partager tous les combats de cette personne, ou même condamner une partie des combats de cette personne. Moi, je suis pas un donneur de leçons, un inquisiteur. Je suis pour la tolérance, et surtout, je suis pas non plus pour faire les procès des gens une fois qu'ils sont morts et puis là pour se défendre. Surtout que Madame Halimi, elle savait se défendre elle-même, même quand elle se trompait lourdement.
Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir été l'invité de
Merci
France Inter.
Merci.